Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, la suite de « Bye bye la monarchie » et l'architecture résiliente, une maison à l'épreuve des changements climatiques. Bonne écoute.
Vous écoutez « Bye bye la monarchie », un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 4 mai 2023 dans la presse. Tuer l'ange gardien. Je suis ambivalente. J'aime l'idée d'avoir un ange gardien quelque part. Nous sommes un petit pays. C'est bien d'avoir un lien avec un grand frère. Quelqu'un qui intervient en cas de crise. Le roi et la reine sont comme un conte de fées. On aime ça. D'un autre côté, il faut continuer à grandir comme pays. Si ça doit nous donner plus de liberté pour faire nos propres choix, je dis oui. On est capable. On gère nos affaires mieux qu'avant. Ce serait une vraie indépendance. Mais c'est un pas vers l'inconnu. Il faut rester prudent. Donc, je veux bien rester dans le Commonwealth. C'est toujours bon d'avoir un plan B. Beverly Young. Retourner chez nous. Une république? Pour moi, ça ne veut rien dire. Je ne vois pas les avantages. On n'est pas Jamaïcain, on est Africain. Ce qui compte pour moi, c'est le rapatriement du peuple noir en Afrique. Ils disent qu'en coupant les liens avec la monarchie, on se débarrasse de notre dernier lien avec l'esclavage. Je n'y crois pas. On est encore dans un esclavage mental. Clinton Hamilton. Ce qui est bon pour la Jamaïque. J'ai passé 37 ans dans la police. J'ai vu la reine Elisabeth chaque fois qu'elle est venue en Jamaïque. J'avais accès parce que j'étais officier. J'ai même visité le palais de Buckingham. Mais je n'ai pas de lien sentimental avec l'Angleterre. Je veux ce qui est bon pour la Jamaïque. Ça fait assez longtemps qu'on en parle de couper ces liens. Alors qu'on le fasse. Lancelot Miller. La monarchie est destructrice. Le gouverneur général, c'est une perte de temps. La monarchie est destructrice. Elle a créé un système qui entretient la criminalité. J'ai bon espoir qu'on votera oui. Les Jamaïcains savent choisir ce qui est le mieux pour eux. Il faut aussi régler cette histoire de réparation financière. Mais il ne faut pas que cet argent tombe dans les mains des politiciens. Ils vont le garder pour eux. Paul Waldron. Plus de respect, s'il vous plaît. On a enduré pas mal de trucs. C'est à se demander comment on a fait. Le régime britannique n'a pas été juste envers nous. Le roi est notre chef d'État, mais on a quand même besoin d'un visa pour aller au Royaume-Uni. Ça n'a aucun sens. Plus de respect, s'il vous plaît. Tajon Everett. Aucun sens, en effet. Nos grands-parents ont bâti l'Angleterre. Femmes de chambre, construction. Sans nous, comment auraient-ils fait? Si on devient une république, je pense qu'il faut inverser tout ça. Les Anglais devront avoir un visa pour venir chez nous. Masha Saley. Vous écoutez Bye bye la monarchie, un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 4 mai 2023, dans la presse. Tellement. Cela dit, on va quand même regarder le couronnement. On a de la famille là-bas. Tajon Everett. Mais oui, c'est beau à regarder. C'est glamour. Et j'adore leur accent. Masha Saley. inclure les Autochtones. Cette conversation doit aussi inclure les descendants des Autochtones, les Taïnos et les Maroons. Parce qu'on était là les premiers, parce qu'on a combattu les Britanniques, les gens pensent que si on n'a plus le roi, le gouvernement pourra s'approprier les terres que la couronne nous avait accordées. C'est faux. Ce traité est viable à perpétuité et si on veut changer quelque chose, les deux parties doivent être d'accord. Melissa Lynn. Une république? Pas pour moi. Selon un sondage mené en août 2012 par le journal local The Gleaner, 44% des Jamaïcains ne voulaient plus de la reine comme chef de l'État. En 2022, ce chiffre était passé à 56%. C'est dire la progression constante du sentiment républicain dans la patrie de Bob Marley. Cela ne veut pas dire que les partisans du statu quo ont disparu. Au contraire. Mais leurs voix, perçues comme discordantes, se font moins entendre. Notre opinion n'est pas très populaire ces jours-ci, se désole l'avocat Kent Gammon, ancien candidat du Jamaican Labour Party, JLP, aux élections de 2020. Il serait trop facile de réduire le mouvement à des nostalgiques de l'époque coloniale. Ces gens ne sont pas forcément des monarchistes forcenés, ou des admirateurs de l'Empire britannique. Ils estiment tout simplement que le pays n'est pas prêt et que les avantages liés à la monarchie constitutionnelle sont plus nombreux que les inconvénients. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal avec notre constitution. Elle nous a servi pendant des années, estime Gillian Rowlands, rencontrée dans un club privé de New Kingston. Pour cette journaliste et consultante en orientation, la couronne ne doit plus être vue comme un symbole d'oppression. En divorçant de Londres, le pays se priverait au contraire d'une figure de stabilité qui lui sert en quelque sorte de boussole. « Nous vivons dans un pays troublé, dit-elle. On doit d'abord se réconcilier avant de parler d'une république utopique. » Il faut savoir que la Jamaïque reste fragilisée par des années de politique partisane, de corruption et de criminalité. Même si la violence au quotidien semble diminuer, l'île affiche toujours le plus haut taux d'homicides au monde, avec 45 meurtres pour 100 000 habitants, loin devant le Honduras, 36 pour 100 000 habitants, et l'Afrique du Sud, 33 pour 100 000 habitants, selon le site Wise Voter. La corruption, jugée endémique par 70 % de Jamaïcains, The Gleaner 2020, a pour sa part entraîné une forte démobilisation de l'électorat, alors que les deux mêmes partis, le JLP et le People's National Party, se partagent le pouvoir depuis plus de 60 ans dans un climat parfois tendu. Aux élections de 2020, le taux de participation avait ainsi atteint un creux historique de 37 %, signe d'une profonde désaffection de la population qui ne voit pas ses conditions s'améliorer, peu importe le résultat des urnes. Autant de soucis que la République ne réglera pas du jour au lendemain, estime Kent Gammon. Selon l'avocat, auteur de l'essai politique « Two Steps Forward, Two Steps Backward », le pays doit plutôt faire son examen de conscience et mieux jouer dans les limites du système politique en place. Pour ce qui est de l'argument décolonial, très peu pour lui. Le projet républicain est, selon lui, porté par une élite anti-britannique à tendance socialiste qui refusent de faire la paix avec le passé. Ces gens ont de la rancœur. Ils doivent tourner la page. Se débarrasser de la monarchie n'est-elle pas justement la meilleure façon d'y parvenir? Il en doute. Nous avons simplement besoin de meilleurs leaders et de meilleurs gouvernants, conclut l'avocat. Et il faut cesser de tenir les autres responsables de nos problèmes. L'Angleterre n'a rien à voir avec nos problèmes. Au contraire, je pense qu'elle nous a bien servis. 116. La Jamaïque est le 116e pays, sur 164, au chapitre de la richesse. Source, données mondiales. Un Canadien dans le bateau jamaïcain. Le constitutionnaliste Richard Albert conseille la Jamaïque pour sa transition vers la République. Il pense que l'île caribéenne est un modèle à suivre pour le Canada. Vous êtes Canadien, vous enseignez à l'Université du Texas. Vous êtes maintenant membre du Comité pour la réforme constitutionnelle de la Jamaïque, CRC. Comment êtes-vous embarqué dans ce bateau? On me demande souvent de donner des conseils sur la façon de réformer une constitution. J'écris sur ces sujets. J'ai publié un livre qui porte spécialement sur les Caraïbes. J'apporte une expertise sur les questions auxquelles ces pays et ces gouvernements doivent faire face. Quel sera votre rôle dans le CRC? De conseiller et d'aviser. Mais sans utiliser les mots comme « vous devriez » ou « vous devez », mon rôle est de répondre aux questions. Voici ce que vous voulez faire, voici comment y parvenir, c'est tout. Quel est le mandat de ce comité? Évaluer et conseiller le gouvernement jamaïcain pendant son processus de réforme constitutionnelle. Nous réfléchissons plus largement aux moyens stratégiques nécessaires pour mener ce processus à terme. Il y a une volonté de transformer la Jamaïque en république depuis 1977. Diverses initiatives ont été prises en ce sens, mais aucune n'a abouti. Pourquoi celle-ci serait-elle plus crédible? Il est vrai que les efforts du passé n'ont pas porté leurs fruits, mais cette fois, il semble que ce soit différent, et voici pourquoi. Avant, il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Mais on ne voit plus le même genre d'intensité rhétorique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de l'action. La preuve est que le premier ministre Andrew Holness a créé un ministère des Affaires légales et constitutionnelles spécialement consacré à ce dossier. C'est un énorme pas. Un ministère, un comité, des experts internationaux, faut-il en déduire que la transition a déjà commencé? Il y a deux semaines, la ministre Marlène Malao-Forte a tenu une conférence de presse pour informer la nation des nouveaux développements dans le dossier. Elle a officialisé nos premières recommandations, dont celle de faire transitionner le pays d'une monarchie constitutionnelle à une république. Cela veut dire que le gouvernement, l'opposition et la société civile s'entendent sur ce point fondamental. Le travail n'est pas encore fait, mais c'est une avancée importante. Certains médias et militants pro-monarchistes vous ont reproché de ne pas être jamaïcain. Oui. Il y a eu des critiques. Je comprends les gens qui se demandent ce qu'un Canadien fait là. Mais je vais vous dire, j'ai des liens très personnels avec ce processus. D'abord, parce que mon arrière-grand-père est né en Jamaïque et que mes parents s'y sont rencontrés. Ensuite, parce que je souhaite qu'on fasse la même chose au Canada. Vous êtes pour une république canadienne? Il est plus que temps que le Canada fasse le pas et rompe les derniers liens coloniaux avec le Royaume-Uni. Y a-t-il la volonté politique et populaire pour le faire? Cela est une autre histoire. Je ne sais pas si le pays est prêt à faire ça. Mais j'aimerais que nos leaders aient le courage de suivre l'exemple jamaïcain. Comment expliquer ce manque de courage, cette non-urgence? Il y a une réponse simple à cette question. Pour devenir une république et se débarrasser de la monarchie, le Canada doit modifier sa constitution. Or, les procédures pour le faire sont les plus difficiles au monde. Elles exigent un accord entre les deux chambres du Parlement et les assemblées législatives de toutes les provinces et de tous les territoires. Réécrire la Constitution ouvrirait aussi la porte à toutes sortes d'autres enjeux, parce que chaque province va vouloir quelque chose. Tous les groupes d'intérêts vont vouloir quelque chose, et chacun trouvera une raison de voter contre les demandes des autres. À partir du moment où vous déverrouillez la porte de la réforme constitutionnelle au Canada, les vannes s'ouvrent et vous ne pourrez pas bloquer l'élan de tout ce qui voudra passer par cette porte. Vous ne le pourrez tout simplement pas. C'était « Bye bye la monarchie », un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 4 mai 2023 dans La Presse.
L'architecture résiliente, une maison à l'épreuve des changements climatiques. Un texte d'André Laroche, paru le 6 mai 2023 dans La Presse. Le verglas a chassé des milliers de Québécois de leur chez-soi pendant quelques jours ce printemps. Ce nouvel épisode de météo violente devrait nous inciter à construire des maisons dotées d'une enveloppe résiliente, affirment des experts. De son propre aveu, Stéphanie Robillard-Sarganis a vécu l'enfer lorsque le verglas a provoqué une panne d'électricité de 2 jours et demi dans son quartier de Saint-Eustache au début d'avril 2023. En quelques heures seulement, la température dans sa maison construite en 1975 a plongé sous les 10 degrés centigrades. Nous avons dû dormir sous un tas de couvertures avec notre tuque sur la tête, se remémore cette éducatrice spécialisée, mère de 2 enfants d'âge primaire. Nous aurions bien voulu aller nous réfugier ailleurs, mais nous avions contracté une gastro en famille. Nous n'avions pas d'eau chaude et la nourriture du frigo était dans la neige. Ce cas n'est pas unique. Au matin du 6 avril 2023, près de 1,1 million de Québécois étaient privés d'électricité, ce qui a notamment incité la ville de Montréal à ouvrir 8 refuges d'urgence. Ce scénario risque de survenir plus souvent dans les prochaines années en raison des changements climatiques. En effet, selon Hydro-Québec, ces bouleversements mettront son réseau à rude épreuve avec la végétation croissante, les incendies de forêt, les espèces envahissantes et les précipitations extrêmes. Ces perturbations provoqueront aussi des vagues de chaleur de plus en plus intenses, selon Ouranos. Sans chauffage ni climatisation. En effet, Dame Météo ne frappe pas seulement en hiver. Presque chaque été, le mercure bat des records et fait des victimes. À Montréal, la vague de chaleur de 2018 a causé la mort de 65 personnes, rappelle Dominique Thomas, chercheuse en génie civil à l'Université de Sherbrooke. Bref, en cas de panne de courant, nos maisons se transforment trop souvent en glacière en hiver et en four en été. C'est pourquoi, plaident les spécialistes, il devient impérieux de construire des maisons et des immeubles résilients, capables de rester habitables pendant les canicules ou les froids hivernaux sans chauffage ni climatisation. La clé se trouve dans la qualité de l'isolation et dans l'étanchéité impeccable de la maison, explique Emmanuel Cosgrove d'Écohabitation, un organisme voué à la promotion de la construction durable. La température dans une maison sans fuite d'air, dotée d'un vitrage triple et de murs épais avec une cote d'isolation de R49, ne variera que de 2 degrés centigrades en 3 jours lors d'une panne de chauffage ou de climatisation, affirme-t-il, étude à l'appui. L'ensoleillement et la chaleur dégagées par les occupants permettront de récupérer les degrés perdus durant une nuit d'hiver. Pour illustrer son propos, M. Cosgrove fait l'analogie entre une bouteille thermos et une cafetière filtre. Le thermos va conserver le café chaud longtemps. La cafetière filtre doit continuellement rester allumée parce que la chaleur s'échappe par la vitre de la carafe, explique-t-il. Une question d'argent. Cette efficacité accrue augmente les coûts de construction, reconnaît Emmanuel Cosgrove. Mais cet argent sera vite récupéré en coûts d'exploitation, ajoute-t-il. Écohabitation dispose d'ailleurs d'un catalogue de maisons en kit, dites passives, dont les coûts de chauffage se réduisent à environ 1 $ par année. Les consommateurs ne sont cependant pas prêts à payer pour cette qualité, se désole l'entrepreneur montréalais Simon Garraud de la firme De Vauban, spécialisée dans la construction de plex à faible consommation d'énergie. Quand je parle d'un projet certifié LEED, tout le monde part en courant. Les gens ont besoin de voir. Ils préfèrent mettre leur argent sur de plus beaux comptoirs plutôt que dans ce qu'il y a dans les murs, souligne-t-il. Vous écoutez L'architecture résiliente, une maison à l'épreuve des changements climatiques, un texte d'André Laroche paru le 6 mai 2023 dans la presse. Les règles de financement hypothécaire jouent contre la construction de qualité supérieure, a constaté pour sa part Patrick Ranger, directeur général de la firme Belvedere. Une isolation supérieure n'est pas prise en compte dans la grille d'évaluation d'une maison. Le surcoût n'est donc pas financé par les banques. Si ça coûte 50 000 $ de plus, les acheteurs doivent sortir cet argent-là de leur poche dès l'achat, affirme Patrick Ranger, directeur général de la firme Belvedere. Pour rendre la facture plus digeste, les architectes de Belvedere ont cherché où mettre l'argent, là où ça compte, dit Patrick Ranger. Leur solution, une fenestration thermos triple et une isolation des murs réduite à R33, tout de même 35% supérieure à la norme Nouveau Climat. La perte de chaleur sur une maison typique provient à 60% des fenêtres et à 12% des murs. Un vitrage thermos triple diminue à lui seul cette perte à 40%. À dollar égal, il est donc plus rentable de mettre l'argent sur des fenêtres de qualité, explique M. Ranger. L'opération Deep Energy Retrofit consiste à ajouter une seconde enveloppe isolante à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. Colmater les failles. Comment alors peut-on améliorer la résilience d'un bungalow des années 1970, par exemple, dont les murs extérieurs étaient construits à l'époque en simple colombage de 2x4? Plusieurs experts prônent une opération appelée en anglais « Deep Energy Retrofit » qui consiste, en gros, à ajouter une seconde enveloppe isolante à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. Selon l'organisme Retrofit Canada, situé à Edmonton, une telle opération peut augmenter de 70% l'efficacité énergétique d'une maison et réduire ses émissions de CO2 de jusqu'à 400 tonnes par année. Dans un monde idéal, c'est la meilleure des solutions, affirme Dominique Durham de l'Université de Sherbrooke. Mais de manière réaliste, peu de propriétaires peuvent investir autant d'argent pour refaire leur revêtement extérieur ou pour réduire leurs pièces intérieures. Selon cet ingénieur, un premier gain d'efficacité peut être rapidement obtenu par une meilleure isolation du toit, par des fenêtres de qualité, mais surtout par une chasse aux fuites. Les bâtiments datant d'avant 1990 ne sont pas très étanches. On peut trouver facilement les failles par un test d'étanchéité. En colmatant les trous autour des fenêtres et des murs, on obtient un meilleur confort immédiatement. Isabelle Thomas, directrice du groupe de recherche RI Action, suggère pour sa part que Québec instaure un programme à l'intention des propriétaires désireux d'améliorer la résilience de leur maison, notamment pour éviter l'éco-gentrification. c'est évident qu'il faut les accompagner par une aide technique et financière dans ce processus, affirme la professeure de l'Université de Montréal. Du logement social et résilient. Plusieurs projets de logement social intègrent les notions d'enveloppe résiliente, affirme Emmanuel Cosgrove de l'organisme Écohabitation. C'est une bonne chose puisque c'est l'État qui paie le chauffage, dit-il. L'enveloppe résiliente dans les logements sociaux permet aussi aux personnes les plus fragiles d'éviter les refuges surpeuplés en cas de panne de courant, hiver comme été, souligne Daniel Pearl, architecte montréalais derrière le projet de la place Griffintown. Cet immeuble, dont la construction est prévue d'ici 2 ans, intégrera les notions les plus innovantes de l'enveloppe résiliente, isolation supérieure, ventilation naturelle, végétation extérieure, absence de pont thermique, etc. Mon objectif est que la température se maintienne entre 15 et 30 degrés centigrades dans les logements pendant 72 heures, sans électricité, résume M. Pearl. C'était L'architecture résiliente, une maison à l'épreuve des changements climatiques, un texte d'André Laroche, paru le 6 mai 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Robert Chartier à la lecture, Diane Métaillé et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Jartman à la présentation et au montage.